de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Grande-Bretagne ne reconnaîtra pas la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Melbourne réapplique le confinement dans les banlieues nordiques. Taïwan ouvre un bureau pour aider les personnes fuyant Hong Kong. Une colonie israélienne illégale est construite en Cisjordanie. L'Indonésie offre 41 projets d'investissement aux entrepreneurs français. Le ministère de l'Industrie a lancé une campagne « Semuanya ada di sini » ou « Tout est ici » invite à magasiner les produits des PME nationaux. L'ambassade d'Indonésie à Paris encourage l'investissement en Indonésie dans le forum virtuel de l'IIIF. Mon cher Jolitar, voici les nouvelles en complet. La Grande-Bretagne ne reconnaîtra pas la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Le Premier ministre britannique Boris Johnson exhorte Israël à ne pas annexer certaines parties de la Cisjordanie. Il a même dit qu'il ne reconnaîtrait pas la souveraineté d'Israël sur le territoire annexé si cela était fait unilatéralement. Cela a été communiqué par Johnson à travers une opinion publiée mercredi 1er juillet par le journal israélien Yedioth Aharonot. Dans ses écrits, Johnson se décrit comme un ami d'Israël. C'est parce qu'il a déjà travaillé au kibbutz, une communauté collective en Israël qui s'est concentrée sur l'agriculture. Johnson, dans ses écrits tels que cités par les pages de l'Israel National News, la Grande-Bretagne s'est toujours tenue à côté d'Israël et de son droit de vivre comme d'autres nations dans la paix et la sécurité. Néanmoins, il a estimé que l'annexion de la Cisjordanie mettrait en péril les progrès accomplis par Israël dans l'établissement de relations avec un certain nombre de pays arabes. D'un autre côté, de telles actions violent les droits internationaux. Il a dit qu'il voulait voir les résultats qui rendraient justice à Israël et à la Palestine. Melbourne réapplique le confinement dans les banlieues nordiques. La ville de Melbourne a de nouveau verrouillé la banlieue nord. Cela a entraîné des restrictions sur le mouvement d'environ 300 000 personnes pendant un mois à partir de mercredi 1er juillet la nuit. Cela a été fait pour résister au risque de propagation de COVID-19 après avoir enregistré une augmentation du nombre de cas au cours des deux dernières semaines dans le deuxième état le plus peuplé d'Australie. Le site internet de Reuters a indiqué que l'état de Victoria avait enregistré 73 nouveaux cas sur 20 682 tests mardi 30 juin, après une augmentation de 75 cas lundi 29 juin. Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrew, a averti que le retour de restrictions plus larges dans toute la ville était toujours possible. Andrew a déclaré mercredi que la recrudescence de nouveaux cas à Victoria a été attribuée au personnel des hôtels qui accueillent des voyageurs qui ne respectent pas le protocole de quarantaine. Les autorités de l'État victorien ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. À partir de minuit mercredi, plus de 30 banlieues de Victoria imposeront à nouveau des restrictions de phase 3, le troisième niveau de confinement le plus strict pour contrôler une pandémie. Taïwan ouvre un bureau pour aider les personnes fuyant Hong Kong. Taïwan a ouvert mercredi un bureau pour aider les personnes fuyant Hong Kong après que la Chine a imposé une nouvelle loi sur la sécurité nationale dans la ville. Un autre ministre de Taïwan a déclaré qu'il continuerait de soutenir la liberté et la démocratie à Hong Kong. La loi controversée qui est entrée en vigueur mercredi réprimera le crime de séparatisme, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des parties étrangères avec une peine de réclusion à perpétuité. La loi a marqué une ère plus autoritaire pour la ville de Hong Kong qui était le centre de l'activité financière asiatique. Les manifestations antigouvernementales à Hong Kong ont gagné un large soutien multipartite à Taïwan qui est démocratique et revendique par la Chine, où la loi a été largement condamnée. Selon le groupe de droits de l'homme, environ 200 citoyens de Hong Kong ont fui à Taïwan depuis le début des manifestations pro-démocratie l'année dernière. Une colonie israélienne illégale est construite en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a révélé des signes de reporter l'annexion de la Cisjordanie palestinienne, mais un certain nombre de colons juifs ont commencé à construire des colonies illégales mardi 30 juin 2020 dans le sud de la Cisjordanie. Des témoins ont déclaré qu'un grand nombre de colons juifs ont pris d'assaut la partie nord du village de Al-Hul à Hébron, comme cité l'Anadolu Agency. Mercredi 1er juillet 2020, bien que les Palestiniens n'aient pas été autorisés à pénétrer dans la zone, car elle a été déclarée zone militaire par l'armée israélienne, les colons juifs ont commencé à se préparer à entreprendre des travaux de construction après avoir planté un drapeau israélien sur le site. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises qu'il annexerait tous les blocs de colonies et la vallée du Jourdain le 1er juillet dans le cadre d'un accord avec des rivaux devenant les alliés Benny Gantz, chef de la coalition bleue et blanche. Pendant ce temps, les responsables palestiniens menacent d'abolir les accords bilatéraux avec Israël si cette action est suivie d'une annexion, ce qui compromettra la solution à deux États. L'Indonésie a offert 41 projets d'investissement aux entrepreneurs français. Le gouvernement indonésien offre 41 grands projets d'infrastructure d'une valeur de 439,98 milliards de dollars américains ou environ 6 385 billions roupias aux entrepreneurs français. Les projets prévus jusqu'en 2024 couvrent les secteurs des transports, de l'électricité, du réseau de gaz, de la logistique et des villes vertes, y compris les projets de la nouvelle capitale. Dans son allocution au Forum indonésien sur les investissements dans les infrastructures IIIF, tenue en ligne mardi 30 juin, l'ambassadeur d'Indonésie auprès de la France, Armanata Nasir, a déclaré que la pandémie de COVID-19 exigeait la créativité des entrepreneurs pour profiter des nouvelles opportunités d'investissement, comme l'a déclaré Armanata dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Paris mercredi. L'Indonésie offre de grandes opportunités aux entreprises françaises, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que l'énergie, les transports, le maritime et les projets du développement de la capitale d'État. En outre, les programmes indonésiens est également fermement résolu à faire toujours les réformes économiques et bureaucratiques et à offrir des incitations aux investisseurs étrangers. Divers politiques devraient être pris en considération par les entreprises françaises qui souhaitaient délocaliser leurs affaires en Indonésie. Le ministère de l'Industrie a lancé une campagne « Ce moyen à Dadisini où tout est ici » invite à magasiner les produits des PME nationaux. Le ministère de l'Industrie a lancé une campagne « Ce moyen à Dadisini où tout est ici » pour inviter les Indonésiens à acheter des produits des petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale dans le cadre du mouvement Bangga Buatan Indonesia, qui est un mouvement de coopération mutuelle entre le gouvernement, la communauté et les entreprises qui achètent des produits fabriqués en Indonésie. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse virtuelle que la campagne qui a eu lieu du 1er au 15 juillet 2020 avait pour but d'atteindre l'objectif de 2 millions de micro, petites et moyennes entreprises MPME effectuant des ventes en ligne. En outre, afin de transmettre le message que l'industrie indonésienne est en mesure de répondre aux besoins de la communauté avec des produits de qualité ainsi qu'une invitation au peuple indonésien à acheter des produits industriels indonésiens, en particulier des produits PME, et d'encourager les PME à élargir l'accès au marketing via les médias en ligne. L'ambassade d'Indonésie à Paris encourage l'investissement en Indonésie dans le forum virtuel de l'IIIF. L'ambassade d'Indonésie à Paris et le MEDEF international de la France ont mené une promotion des investissements dans le cadre du Forum indonésien d'investissement dans les infrastructures IIIF pour attirer les investissements étrangers de la France en Indonésie après COVID-19. Information sociale et culturelle, ambassade d'Indonésie à Paris, Jane Runkat, a déclaré à Antara Londres mercredi que le forum virtuel a réuni 75 entreprises françaises engagés dans l'énergie, le maritime, la banque, l'investissement, l'aérospatial, le transport, l'automobile et la défense. L'ambassadeur Armanata Nasir, lors du forum en ligne de l'IIF, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait complètement changé des vies, exigé pour sortir de la zone de confort et doit être plus créatif et innovant dans la création et l'utilisation de nouvelles opportunités commerciales. Selon lui, cette demande est en ligne avec l'objectif de l'événement qui est d'inviter les milieux d'affaires français hors de la zone de confort de leur marché créatif et innovant pour capter et exploiter les opportunités de marché en Indonésie. Il a été dit que, bien que sous l'emprise de COVID-19, l'esprit de coopération entre l'Indonésie et la France est resté fort. Actuellement, les deux pays finalisent l'accord de coopération en matière de défense et le plan d'action pour revitaliser la coopération stratégique franco-indonésienne. L'ambassadeur Arman Atanasir a ajouté que les deux accords deviennent être signés au second semestre 2020. Mon cher auditeur, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Méfiez-vous des nouvelles menaces virales au milieu de la pandémie de COVID-19 ». Pas encore terminée avec l'épidémie de COVID-19, la communauté internationale a été choquée par la découverte d'un nouveau type de variante de la grippe porcine avec le code G4EAH1N1. Dans un rapport de chercheurs chinois, ce virus a le potentiel de devenir une nouvelle épidémie car il se transmet facilement d'un animal à l'autre et même aux humains. Il rapporte que ce virus G4 est connu depuis longtemps, mais il y a une forte tendance à la hausse depuis 2016, en particulier dans les zones qui comptent de nombreuses fermes porcines dans une dizaine de provinces chinoises. L'anxiété ajoutera une nouvelle menace qui a rendu la communauté internationale, y compris l'Indonésie, doit être vigilante. Un chercheur de l'Université de Nottingham, professeur Kin Cho Chang, a rappelé à la communauté internationale de ne pas baisser la garde ou d'ignorer le virus G4 qui présente une menace potentiellement dangereuse pour l'humanité, d'autant plus que le monde est actuellement occupé par l'épidémie de COVID-19 qui se propage très rapidement. Dans un rapport de chercheurs chinois, basé sur un certain nombre d'expériences menées sur des forêts où Mustela putorius furo ou des mammifères couramment utilisés dans la recherche sur la grippe, les résultats ont montré que le virus G4 était très contagieux. De plus, il peut se répliquer dans les cellules humaines et provoquer de graves symptômes chez les forêts par rapport à d'autres virus. Pendant ce temps, le directeur général de l'élevage et de la santé animale du ministère de l'Agriculture, Iketut Diarmita, a admis qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun rapport sur le virus de la grippe porcine G4 en Indonésie. Il s'est assuré que cela augmenterait la sensibilisation pour réduire le potentiel d'entrée et de propagation de ce virus en Indonésie. Il a également déclaré que la surveillance systématique des virus de la grippe était toujours nécessaire pour prévenir l'émergence d'une pandémie. Bien qu'il n'y ait aucun rapport de cas de mort humain dû au virus G4EAH1N1, la menace de mort a forcé toutes les autorités de l'État à prendre soigneusement et de manière très stricte toutes les mesures de santé pour empêcher la propagation du virus de la grippe porcine, non seulement aux animaux, mais aussi aux humains. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. On commence par l'événement du 2 juillet 1900. Premier vol de Zeppelin sur le lac de Constance en Allemagne. Le Zeppelin est un dirigeable géant en forme de cigare qui peut voler en direction car il a un moteur et un volant. On appelle le navire d'après le nom du désigné Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin, un expert aéronautique allemand qui a réussi à le piloter pour la première fois le 2 juillet 1900. La défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale a temporairement stoppé l'activité de Zeppelin. Cependant, sous la direction d'Hugo Eckener, successeur de Ferdinand von Zeppelin, le Zeppelin civil est devenu populaire en 1920. Zeppelin a atteint son apogée en 1930. Chers amis, Amelia Earhart et son navigateur Fred Noonan ont disparu dans l'océan Pacifique le 2 juillet 1937. Amelia Marie Earhart a été la première femme à recevoir la Distinguished Flying Cross. Elle a obtenu le prix parce qu'elle a été la première femme à voler seule à travers l'océan Atlantique. Elle a également enregistré de nombreux autres records. Écrit le livre le plus vendu sur son expérience de voler et a joué un rôle important pour la fondation de 99, l'organisation pilote des femmes. Amelia Earhart et son navigateur Fred Noonan ont disparu dans l'océan Pacifique près de l'île de Holland quand elle a fait un tour du monde le 2 juillet 1937. Le mystère de la disparition d'Earhart n'a pas été révélé jusqu'à présent. Chers amis, le 2 juillet 1976, le nord et le sud du Vietnam sont réunis. La République socialiste du Vietnam, l'un des voisins de l'Indonésie en Asie du Sud-Est, était autrefois divisé en deux pays. Depuis une vingtaine d'années, le Nord et le Sud-Vietnam étaient en guerre. Mais le 2 juillet 1976, les deux pays se sont finalement unis. À cette époque, officiellement à Hanoï, on a diffusé que les dirigeants du Nord et du Sud-Vietnam avaient consolidé les gouvernements. En outre, le drapeau, il a également déterminé le drapeau, hymne et le symbole national qui ont adopté la priorité du Nord et du Vietnam. Mon cher auditeur, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama cita-cita Indonesia juara. Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia. Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara. Bila kita percaya, jangan pernah kau menyerah. Untuk Indonesia juara, yeah. Jiwaku, jiwamu, bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama cita-cita, oh.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous. On se retrouve avec moi, Tiwi, au programme de Mon Indonésie. Le titre d'aujourd'hui est « Soja alimentaire, les aliments pour les animaux et les vêtements pour lutter contre la dégradation des terres ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a organisé la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2020 avec une série d'événements, à savoir un séminaire en ligne ou webinaire, un talk show qui a présenté aux praticiens sur le terrain pour partager l'expérience et les meilleures pratiques qui ont été faites. Le thème de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2020 est « Aliments, fourrage, fibres » ou « Aliments, aliments pour animaux et vêtements ». Le thème est conçu comme un effort éducatif pour la communauté mondiale afin de changer le mode de production et de consommation d'exploitation vers un modèle plus respectueux de l'environnement et durable. Cette journée de lutte contre la désertification et la sécheresse sera axée sur le changement des comportements du public vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Lors de l'ouverture de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2020 à Jakarta, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alou Dohong, a lu le discours du ministre de l'Environnement et des Forêts « Lorsque la population augmente et les zones urbaines se développent de plus en plus, alors la demande et la pression sur le terrain augmenteront pour répondre aux besoins de denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des fibres utilisées comme vêtements. » Le gouvernement a cœur une attention sérieuse sur le problème de la dégradation des forêts et des terres en réduisant le taux de déforestation et en augmentant les programmes de récupération des forêts et des terres. L'accélération de la réhabilitation et de la remise en état des terres et des forêts est l'une des priorités de développement. Le vice-ministre Alou Dohong a également déclaré que l'intégration des systèmes de gestion des terres et des forêts qui sont orientés vers la durabilité à travers des modèles d'agroforesterie est une nécessité pour répondre aux besoins de denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des fibres, et des vêtements sans avoir à sacrifier les intérêts de la protection de l'environnement. En outre, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alou Dohong, a souligné qu'il s'agit du rôle important des universitaires, des environnementalistes qui sont les membres de la Société indonésienne de conservation des sols, le Forum sur les bassins versants et des organisations non gouvernementales qui existent en Indonésie. La sagesse locale de la communauté doit également être explorée et développée comme un atout technologique pour l'agroforesterie et la conservation. Pour cette raison, Alou Dohong invite toutes les parties à donner l'exemple en construisant des modes de vie respectueux de l'environnement et durable, en consommant de la nourriture, l'approvisionnement d'aliments pour animaux, l'approvisionnement des fibres pour les vêtements, afin d'assurer la survie de nos vies et des générations futures. C'est tout mon Indonésie.
Oh, dan kehangatan cintamu. Oh, 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 indahnya warna kehidupan.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Bonsoir, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à présenter la danse Dolo Dolo. Le 28 juin, la communauté Horowura, le village de Horinara, Nusa Tenggara Est, se sont réunis dans le chambre de la région pour présenter la richesse littéraire par le Dolo Dolo. Cette activité fait partie d'une série de revitalisation de la littérature à base communautaire qui a reçu le soutien de l'Agence de développement du langage et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture. La danse Dolo Dolo contient la philosophie dans ses divers mouvements. Dolo Dolo est aussi du texte ou de la littérature car il contient des versets. Il existe des compétences littéraires qui se répercutent dans le mouvement et le rythme de la danse. Dolo Dolo est une danse célèbre des communautés de Flores Oriental, Lembata, Adonara, Solor et Alor. Dolo Dolo est une danse de masse. Cette danse est généralement exécutée avec le chant Dolo. Dans le passé, cette danse était généralement pratiquée au plus haut sommet des rituels traditionnels, à savoir une célébration conjointe ou une prière commune. Elle symbolise l'amitié. Pour les jeunes, cette danse est également un lieu de rencontre. En dansant, les danseurs lient leurs petits doigts et forment un cercle. S'il y a beaucoup de participants, le cercle peut être composé de trois couches ou plus. Les danseurs se centreront les rimes, ils piétinent au rythme de la musique. Dolo Dolo est accompagné d'un tambour ou d'un gong. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel intitulé « La danse Dolo Dolo ». Nous nous retrouverons demain avec l'autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
yang berlari tanpa henti, tanpa disadari tak ada arti. Bahasamu bahas bahasanya, lihat kau bicara dengan siapa.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre programme régulier l'Indonésie en couleur. Vous êtes avec moi Audrey. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons des informations sur CEPAD, le dispositif de détection d'antigènes de COVID-19. Chers amis, l'Université Pajajaran de Java West continue de développer un dispositif de test rapide nommé la détection de CEPAD ou Rapid Test 2.0. Le secrétaire du Centre de recherche en biotechnologie moléculaire et en bioinformatique de l'Université de Pajajaran, Mohamed Youssouf, a déclaré que la différence entre la détection de CEPAD et le test rapide est la molécule qui est détectée. Le test rapide COVID-19 détecte en général les anticorps, tandis que la détection CEPAD détecte l'antigène. Le dispositif de détection CEPAD détecte le virus plus rapidement, car il ne doit pas attendre la forme d'anticorps lorsque le corps est infecté par le virus. Chers amis, différent des autres dispositifs de diagnostic de COVID-19 qui ciblent l'examen des anticorps provenant d'échantillons de sang, le dispositif de test CEPAD est capable de détecter l'existence du SARS-CoV-2, le virus qui cause la maladie de COVID-19 à partir d'un échantillon de swab des patients. La première version du prototype CEPAD est capable de détecter l'existence du virus dans les échantillons de swab au maximum 20 minutes en affichant de lignes rouges dans le dispositif de test. La technologie clé du dispositif de détection est un biocapteur qui détecte l'échantillon de protéines SARS-CoV-2. Le biocapteur est imprimé sur du papier microcellulose, le papier ayant une taille de pore spécifique. L'échantillon de swab du patient est déposé sur le dispositif de test rapide. Les biocapteurs de test rapide sont des anticorps antigéniques produits à partir de poulets auxquels sont injectées des protéines d'antigène viral. Le biocapteur détectera la réaction des anticorps antigéniques à la protéine virale capturée par l'appareil, avec le résultat de l'affichage des deux lignes rouges. Mohamed Youssouf a également déclaré que les anticorps antigéniques sont relativement précis pour être utilisés comme composants des tests rapides COVID-19. Tous les tests effectués sur des échantillons de swab avec des résultats positifs à travers des tests PCR produisent une lecture des deux lignes rouges sur l'outil de test rapide CEPAD, qui indique la présence du virus SARS-CoV-2 qui est détecté. Le dispositif de détection CEPAD est en train de tester un prototype. Le cofondateur de PT Pakar Biomedica Indonesia est en tant également le chef du centre d'études des infections à la faculté de médecine de l'Université Pajajaran. Bharti Alisharbana a déclaré que son entreprise avait préparé en ligne de production pour les résultats de la recherche sur la détection des antigènes. Selon l'estimation, le prix de vente du dispositif de détection d'antigènes CEPAD est estimé à environ 5 000 roupias par unité, moins cher que l'équipement de tests rapides qui circule actuellement sur le marché où la majorité des matières premières dépendent encore des importations. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci beaucoup de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Bimbang untuk memilih.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir, chers auditeurs de Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, avec moi Audrey, au programme du magazine musical. Cette édition, je vais vous présenter une chanson de Titik Sandora. Après avoir publié sa première chanson intitulée Si Boncel, le nom Titik Sandora est devenu célèbre. La suite, elle chantait en duo avec Muhsin Alatas, son mari. Leurs chansons en duo les plus célèbres sont intitulées Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah et Hatimu Hatiku. La chanson Hatimu Hatiku en français, Ton cœur et mon cœur, est l'une de leurs légendaires chansons en duo. La chanson créée par Hassan et Is Haryanto raconte du cœur de deux amants. Chers auditeurs, voici Hatimu Hatiku en français Ton cœur et mon cœur, chanté par Titik Sandora et Muhsin Alatas. Bonne écoute.
Membuat ingin bertemu. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.